Bonjour à tous. Si vous pouvez mettre vos caméras, c'est bien plus agréable pour celui qui parle ou celle qui parle. Donc voilà, alors on vous accueille aujourd'hui dans une de nos journées de notre groupe qui s'appelle Monde Caraïbes et Transatlantique en Mouvement, qui est donc un groupe basé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Ce groupe existe depuis 2014. On verra son avenir puisque la Fondation est en train de se refonder. Mais il n'y a pas de raison. Donc, ce groupe organise régulièrement des journées d'études et cogite sur. Je vais être très brève là-dessus parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Cogite sur la Caraïbe comme étant le lieu de la construction de la modernité dans toute son intégralité ou dans sa totalité, son entièreté. Et on parle d'un paradigme de la modernité qui serait donc présent dans la Caraïbe pour nous dévoiler les ressorts profonds de cette modernité occidentale. Donc, on construit ce paradigme à partir de thèmes qui nous sont chers, qui nous paraissent dévoiler ces logiques. Et Didier, spécialiste de l'océan Indien, j'y reviendrai, est un peu notre contrepoint, celui qui nous permet de comparer, de voir ce qui s'est passé aussi dans l'océan Indien. Bref, on est sur le thème des logiques et des principes de la colonisation comme structurant de la modernité occidentale dans ces logiques, entre guillemets, cachées, mais profondes et absolument efficaces. Donc aujourd'hui, on est réunis pour une journée sur archives et traces, figure visible et invisible du passé. Donc, j'ai souvent la charge de présenter les thèmes. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter ce thème qui m'est cher. Et je dois tout de suite remercier Ferdinand, dont il ne sait peut-être pas que cette réflexion sur archives et traces a été motivée par l'invitation à un séminaire qui s'est déroulé à ton University of East Anglia, dont je ne me rappelle plus le nom de la ville, et que tu avais organisé, je crois, en 2014 ou 2013, peut-être même avant, dont les actes, enfin les communications certaines ont été publiées dans la revue d'anthropologie sociale, Social Anthropology, et c'est toi qui m'as amené, je dois le dire, à réfléchir sur cette notion, puisque je suis anthropologue, hein, sur le va-et-vient entre la trace et l'archive, et avec une réflexion inspirée à la fois par Ricoeur et Édouard Bisson. Donc, pour cette journée, on avait proposé, vous l'avez vu, un court texte d'intention que je vais reprendre et que je vais alimenter de commentaires et peut-être même de contre-commentaires. Et je vais mettre, si ça ne vous gêne pas, mon texte sous les yeux à l'ordinateur, parce que je vais sinon avoir le nez tout le temps baissé sur mes feuilles. Donc, voilà. Donc, on était parti de l'idée de la difficulté de pouvoir entendre les sans-voix, de donner de la voix à celles et ceux qui sont rendus inaudibles au sein de systèmes sociaux, dont le fonctionnement repose précisément sur le pouvoir de faire taire, de rendre silencieuses des figures pourtant présentes, si présentes dans nos vies sociales. Alors, pour ceux qui sont spécialisés sur la Caraïbe, on connaît bien l'ouvrage de l'anthropologue Michel Ralph Trouillot, Silencing the Past, dont le titre dans la traduction française, qui pourrait être Rendre le passé silencieux, n'a pas la même efficacité pour dire comment s'opère l'idée de cette capture des possibilités de recouvrer les termes de sa propre histoire. Alors, ce que veut montrer Trouillot par cette expression, c'est que les conditions de production de narrations spécifiques sur le passé attestent de, je le cite, l'exercice différentiel du pouvoir qui rendent certains récits possibles et qui réduisent les autres au silence. Donc, s'intéresser en fait à l'invisible, c'est un peu s'intéresser à la production du silence et à ce qui existe forcément en deçà ou par-delà ce silence. Et c'est une question à laquelle les chercheurs du temps présent, plutôt nous les anthropologues, s'adressent bon an mal an en recourant massivement à ce qu'on appelle le terrain ou la relation Le terrain étant, à mon sens, ce fétiche de l'anthropologue équivalent à celui de l'archive pour l'historien, pour tenter de mettre en lumière les six petits destins de cette violence subie. Alors, on proposait également de considérer dans notre texte que quand elle s'adresse aux figures anonymes du passé, cette difficulté du caché, du non visible, du non su, du rendu silencieux, du vouloir taire, est redoublée par l'absence même du vivant, l'absence du maintenant et du possible de cette rencontre de terrain. Puisque tenter de recouvrer le passé, c'est toujours avoir affaire à une perte définitive. Et la reconstitution historique pourrait alors nous paraître bel et bien comme un leurre, avec, comme le disait de Certeau, hein, cet assemblage de matériaux destinés, il le disait très bien, à tromper la mort, à nous tromper nous-mêmes et à sur la mort, et à cacher l'absence effective des figures dont parle le texte, à faire comme si le vivant pouvait être de nouveau atteint, alors qu'il s'agit, ce sont ces mots, l'irréparable perte de la présence. Au cours de notre rencontre, on souhaite élargir le plus possible notre réflexion hors du champ des sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe et des Amériques, et ces dernières, de toute évidence, nous confrontent aux voix imperceptibles des esclaves, puis de leurs descendants. Elles mettent à jour bien plus largement la question des sources possibles à explorer pour tenter de restaurer des présences effacées, des présences anéanties par le poids des appareils de pouvoir. Et parmi ces appareils, l'archive a pu être considérée comme le lieu par excellence de déploiement de l'autorité coloniale et plus généralement de celle des nations occidentales. Le pouvoir de l'archive, on le sait, il a été maintes fois décrit, maintes fois décrié, faisant des documents archivés, des produits de machines étatiques, c'est encore ce qu'écrivait Anne-Laure Stoller, l'usage des ressources électroniques dont nous parlera Magali, vient décupler de façon vertigineuse ce pouvoir que Featherstone assimile à un super panoptique. Et la matérialité du lieu, l'archive, le bâtiment de conservation, fabrique en soi ce qui est au principe même de la puissance de l'archive, de son autorité, c'est-à-dire le principe de coupure qui circonscrit les savoirs sur le passé en tant qu'acceptables, conservables, tout en les séparant de la parole vivante. Le document d'archive est silencieux, dit Ricoeur, et il dit qu'il est même orphelin, car il est privé de ce qui donne la vie. Il est voué à ne pas être dit, entendu, et donc privé de la capacité à entrer dans le dialogue qui suppose ce face-à-face et qui rend compte aussi du témoignage. Le document d'archive, toujours pour Ricoeur, est aphone. Il se présente comme la première mutation de la mémoire vivante, recouverte et même éteinte par la scripturalité. Alors, scripturalité qu'on peut d'ailleurs entendre au sens large, hein, pas seulement de l'écrit graphique. L'archive, c'est donc, on ne le sait que trop, hein, on l'a répété, cette institution du savoir qui fonctionne par une sorte de décantation de la vie, dont l'usage ouvre la voie à une histoire positiviste sur le passé, comme épurée des subjectivités, puisque dépouillée des ressorts de l'émotion, du vivant et du mouvement de la pensée. Et là, je voudrais dire combien il serait illusoire de penser que cet élan positiviste a été laminé par excusez-moi, par les épistémologies qui se sont succédées, post-structuraliste, déconstructiviste, post-colonial, décolonial, ontologique aujourd'hui, parce que particulièrement sur les domaines qui me sont familiers, les historiens et chercheurs d'autres disciplines continue de charger l'archive de son pouvoir de vérité, de sa visée vérificationniste, et ceci dans un rapport qui semble être totalement ignorant de la façon dont il introduit lui-même ce rapport des hiérarchies, redouble des rapports de domination et produit en définitive ce que l'on appelle aujourd'hui, excusez-moi, décidément, de la violence épistémique. Et on a dans les domaines qui nous sont familiers sur la Caraïbe, Amérique à fondement esclavagiste, deux polémiques, et je parle bien pour l'espace académique français. On connaît la violence de la rebuffade contre les mouvements décoloniaux, contre la pensée décoloniale, et on a dans le champ de l'histoire deux polémiques très vives qui ont montré l'existence de ce redoublement à base d'objectivité et d'un certain positivisme de l'histoire et de la rigueur de l'historien. Je veux parler de la polémique autour de l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot en 2004, ardemment bien évidemment défendu par Nora, et ce livre qui portait sur l'approche globale des traites négrières, et plus récemment, peut-être moins connu médiatiquement, l'ouvrage de Jean-François Niort sur le Code noir, publié en 2015, et qui s'attaquait pour moi à ce qu'on pourrait appeler un véritable totem, sans aucun recul, sur donc le Code noir, en voulant montrer qu'il était un moyen de restaurer la personne humaine dans l'esclavage. Donc, vous voyez que, et là, l'argument principal était celui de la vérité contenue dans l'archive pour légitimer une telle démarche. Donc, cette perspective qui voit dans l'archive l'un des piliers majeurs de l'exercice du pouvoir s'est vue âprement discutée et remise en cause au cours des deux dernières décennies à la faveur d'un des nombreux tournants qui alimentent et qui animent le monde académique. Alors, peut-être moins en France, on a toujours quelques années de retard par rapport à ces tournants académiques du monde anglophone. C'est le tournant archivistique ou archival, l'archival turn, et qui a fait naître une profusion, ou l'archival turn, excusez-moi pour la prononciation, qui a fait naître une profusion d'interprétations où fleurissent les notions de contre-archives, archives alternatives, archives non officielles, tout en réclamant que l'institution elle-même soit revisitée pour le potentiel qu'elle offre malgré tout d'emplir la froideur des documents par des émotions, de la gentilité, de l'esthétique et des pratiques tout simplement vivantes. Il y a dans tous les cas celui ou celle qui s'empare du sens que l'archive s'apprête à livrer, qui s'adonne à déconstruire, cette archive, à la décoloniser aussi, et là il y aurait beaucoup à dire sur la décolonisation des savoirs, qui n'implique pas forcément une décolonisation de la pensée, mais on pourra y revenir dans le débat, et à mobiliser en définitive une lecture d'où les affects ne sont pas absents, et là je vous invite à lire le très beau texte d'Achille Bambé sur les archives, qui, je crois, a été fait partie, constitué un chapitre des politiques de l'inimitié. Donc, ramené à notre double préoccupation, celle de l'altération des figures devenues inconnues ou méconnaissables, et celle du passé irrémédiablement perdu, le débat nous renvoie à des questions en forme d'obstacles et sans doute d'aporie. Est-ce qu'il existe dans l'archive ou hors de l'archive des voies de traverse qui laissent entrevoir ces destins fragiles qui nous préoccupent, ces destins si enclins à être transfigurés par les documents officiels où l'écrit élimine déjà la trace d'une parole audible. Ce qu'on pourrait désigner par le mot « trace » à la manière des écrivains martiniquais Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau ne serait-il pas justement ce lieu d'une alternative où pourraient se manifester des manières d'échapper à la scripturalité de l'archive ou d'être inséré accidentellement ou discrètement dans ces interstices. On pourrait aussi citer d'ailleurs Derek Walcott, qui est Saint-Lucien, qui a une pensée proche et qui développe aussi cette idée de trace. Dans la pensée de Glissant, la trace désigne comme des sédiments épars, à partir desquels des mémoires s'élaborent contre des pensées système, et Patrick Chamoiseau en a décliné, en s'inspirant de Glissant, une définition que je vous lis. La trace est la marque concrète. Les mémoires irradient dans la trace. Elles l'habitent d'une présence sans matière, offerte à l'émotion. Leurs associations trace-mémoire ne font pas monument, ni ne cristallisent une mémoire unique. Elles sont un jeu des mémoires qui sont emmêlées. Elles ne relèvent pas de la geste coloniale, mais des déflagrations qui en ont résulté. Leur signification demeure évolutive, non figée, non univoque, comme celle du monument, et elles me font entendre, voire toucher, imaginer l'emmêlée des histoires qui ont tissé ma terre. Alors, d'un côté, on pourrait dire que se trouve l'archive et de l'autre, la trace. D'un côté, l'histoire, de l'autre, la mémoire. D'un côté, le dépôt figé, de l'autre, la circulation de la parole. Et de nouveau, avec Ricoeur, Il y a cependant matière à éviter ce schème binaire, puisque la mémoire est vue, nous dit-il, comme la matrice de l'histoire, ou, en d'autres mots, l'archive elle-même se trouve dépendante d'un régime particulier de mémoire, ce qui pourrait être défini à partir de ce terme que j'ai pour ma part beaucoup utilisé de régime d'historicité, qu'on retrouve chez Hartog ou d'Etienne, et qui définit une manière de construire un rapport au temps, et l'archive devenant avant tout discours, représentation pour un groupe ou une nation qui voit en elle le possible d'un passé réédifié, pardon, c'est pas contradictoire, de manière la plus crédible possible et animée par cette croyance véritable en la reconstitution. N'y a-t-il pas lieu de désenclaver l'archive de son propre système? N'est-elle pas aussi emplie de traces, ces éclats de vie ou ces fragments de vie dont parle Arlette Farge et qu'il faut savoir débusquer parmi les discours tronqués que rapportent les documents? Et de la même manière, on peut se demander si la trace ne devient pas elle-même une archive quand, hors du document, se trouvent déposés des témoignages du passé dans des architectures multiples, dans des symbolismes matérialisés, dans les corps et les mémoires motrices et en définitive dans tout signifiant incarné. C'est donc au cours de cette journée qu'on vous livre ces quelques pistes à votre réflexion et à partir de ces notions de traces et d'archives, nous proposons d'interroger la possibilité de dévoiler des pans de vie restés muets, comme de reconfigurer des notions qui nous sont familières, sans forcément les opposer, ni faire entrer en conflit ces termes et les binarismes qu'ils portent. Et si ces pistes sont plutôt théoriques, nous voudrions cependant qu'elles nous aident dans ce travail de fouille quasi-archéologique pour entendre ce qui nous vient du passé, qui retentit dans notre présent, et nous aide à retrouver des continuités, des strates, des matrices de sens anciennes et pourtant encore là, et dont les figures des sans-voix d'aujourd'hui pourraient être en définitive le témoignage vivant, porteur d'archives et des traces des vies d'hier. Avant de vous laisser la parole et avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais terminer cette introduction par deux remarques se rapportant à deux pans de notre point de départ, c'est-à-dire d'un côté un passé irrémédiablement perdu et de l'autre l'altération des figures rendues méconnaissables ou inconnaissables, et remarques qui sont un peu mes contre-commentaires de ce que je viens de dire. Alors, ma première remarque, elle consiste à évoquer une sorte de leurre de la mort du passé, ce qui peut paraître contradictoire à ce que je viens de dire, mais qui relève, me semble-t-il, de cette possibilité de concevoir comme compatible l'idée de la perte irrémédiable et celle du dépassement du caractère provisoire des existences individuelles. Alors, ce n'est pas question, bien sûr, d'affirmer que la vie en soi, pour soi, continue et se prévaloir d'un quelconque désir ou un quelconque transhumanisme qui rêverait d'immortalité, mais seulement d'entrevoir la continuité de la vie au travers des traces déjà évoquées, mais de manière encore plus incorporée, au travers de la mémoire intergénérationnelle comme de la mémoire animée par les souvenirs qui se cristallisent, se sédimentent en chacun de nous, à partir de ces strates cumulées, puisant dans des expériences successives. Et de ce point de vue, je ne fais que mentionner, à titre exploratoire, de cette proposition, les recherches que j'ai pu conduire sur les traces du souvenir d'événements anciens, événements datant de 1870 au cours d'une révolte anticoloniale aux Antilles, à la Martinique, et dont j'ai rencontré les porteurs, les passeurs ou les témoins de souvenirs constitués au fur et à mesure de l'éloignement temporel. Et je ne parle de cette recherche que pour dire le rapport qu'elle fait surgir entre l'archive de l'événement consigné par les autorités coloniales et la parole actuelle des descendants, des protagonistes de cette insurrection. Ce travail conduit sur les archives n'a jamais pu me laisser entrevoir des matériaux froids, désincarnés, devenus disponibles à la liberté de mon interprétation, à ma capacité de leur donner une vie singulière et de les charger de ma seule émotion et de mes affects. Parce que la relation établie avec ceux liés par l'expérience à ces matériaux arracher forcément l'archive à son statut fondé sur le principe de la coupure. Les matériaux n'étaient plus orphelins, mais raccordés au vivant de la parole qui circule. Même si ces archives, et notamment les actes du procès des insurgés, sont une déclinaison quasi parfaite de la capacité narrative du pouvoir colonial dont il était question avec Trouillot, c'est-à-dire cette capacité à taire, à transfigurer, à faire disparaître, laissant se profiler à peine l'ombre des aïeux des personnes avec qui j'étais aujourd'hui en présence. Par-delà donc cette autorité de l'archive, le témoignage des personnes venait interférer, comme pour raconter l'autre face de l'archive, celle de mémoire circulante, liante, vivante, reconfigurant le statut de l'archive au travers de la parole échangée et transmise. Et c'est ce rapport entre la personne vivante et le matériau conservé qui la concerne qui me semble offrir la voie la plus prometteuse sur les plans autant éthiques, politiques qu'épistémiques pour investir l'archive sans redoubler son pouvoir d'être l'incarnation d'un mode d'autorité voué à la conservation et offerte à la rigueur et voire à l'imaginaire historien. La mémoire, c'est ce moyen de détourner la puissance de l'archive, de la travailler par la trace, par le témoignage sensible, et de lui donner en définitive une filiation, une condition historique, d'instaurer au cœur de ces empilements de documents morts le dialogue dont Ricoeur évoquait l'absence constitutive. Alors, je parle beaucoup de Ricoeur, mais tout en étant, je fais une parenthèse pour dire que je ne suis pas forcément d'accord sur tout, et notamment avec ce qu'il appelle la double face du souvenir, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, ce cheminement ou le dépouillement de l'interprétation des sources archivistiques se fait en compagnonnage avec ceux qui pourraient être définis comme les détenteurs premiers d'une légitimité à accéder aux documents, qui se rapportent en définitive à leur vie, aux figures familières de leur milieu. Bien, ce compagnonnage amène à la deuxième et dernière remarque, ou le deuxième contre-commentaire, puisque tenter de faire jaillir l'existence de ceux rendus invisibles par les narrations dominantes ne va pas de soi et ne va pas sans poser des questions éthiques. Et je me souviens d'une scène récente, avant notre crise sanitaire, où des collectifs associatifs étaient réunis dans un quartier populaire de Bordeaux pour présenter au public leurs activités. L'un de ces collectifs affichait assez fièrement, plutôt fièrement, son objectif de donner la parole à ce que l'on n'entend pas, de donner les moyens de faire émerger cette parole inaudible. Là était présente une femme d'une quarantaine d'années, se présentant comme précaire, gilet jaune, et elle lui a demandé calmement le pourquoi de la mission que ce groupe se donnait. Presque gentiment, comme si elle s'adressait à un enfant, elle a expliqué aux représentants associatifs que personne ne voudrait que l'on parle à sa place, et qu'elle ne voulait pas elle-même que l'on parle à sa place, que la parole appartenait à chacun, et que vouloir projeter cette parole dans l'espace public n'était pas forcément le désir de ceux que l'on classait comme sans parole. Et quand on fréquente les écrits des écrivains antillais, on est ramené forcément au cœur de cette emprise sur les destins déclarés être éteints et invisibilisés. Édouard Glissant se méfie du verbe « comprendre », qui est au fondement même de nos démarches de connaissance. Il y a, dit-il, dans ce verbe « comprendre le mouvement des mains qui prennent l'entour et le ramènent à soi, geste d'enfermement, sinon d'appropriation. Préférons-lui le geste de donner avec. » Et si Édouard Glissant se méfie du verbe « comprendre », qu'il signale avec son trait d'union, pour rappeler le sens étymologique de « prendre avec soi », c'est parce qu'il y décèle, dit-il, un sens répressif redoutable. Quand la conquête géographique s'est faite banale et moins aventureuse pour l'Occident, c'est en effet substituer le souci de vérité de l'autre. Comprendre les cultures, nous dit Glissant, fut alors plus gratifiant que découvrir des terres nouvelles, et l'ethnographie occidentale s'est structurée à partir de ce besoin. Et j'en profite pour dire que nous voudrions organiser, c'est une idée de Didier, et que je suis complètement sur l'anthropologie, en posant la question si elle est encore coloniale ou pas. Mais pour terminer, je crois que cette question elle est encore plus vive avec la notion d'opacité que Glissant va nous amener à poser la question du qui dévoile les vies cachées et pourquoi. Et Glissant réclame ce droit à l'opacité. Il est un militant de l'opacité. Écoutons ce qu'il nous dit à propos de cette opacité. La pensée de l'opacité me distrait des vérités absolues dont je croirais être le dépositaire. Elle relativise en moi les possibles de toute action en me faisant sensible aux limites de toute méthode. La pensée de l'opacité me garde des voies univoques et des choix irréversibles. Que par ailleurs l'opacité fonde un droit, avec une majuscule, ce serait le signe de ce qu'elle est entrée dans la dimension du politique, redoutable perspective. Comment concilier la radicalité inhérente à toute politique et le questionnement nécessaire à toute relation? Seulement en concevant qu'il est impossible de réduire qui que ce soit à une vérité qu'il n'aurait pas générée de lui-même, c'est-à-dire dans l'opacité de son temps et de son lieu. C'est aussi cette même opacité qui anime toute communauté, ce qui nous assemblerait à jamais, nous singularisant pour toujours. Le consentement général aux opacités particulières est le plus simple équivalent de la non-barbarie. Nous réclamons pour tous le droit à l'opacité. Alors, je vais terminer avec cette double orientation qu'il nous faut explorer, à savoir le désir d'une justice que nos démarches trouveraient à mettre en œuvre en exhumant des histoires tragiques broyées, éteintes, fragilisées par les machines de pouvoir, ou bien le désir de taire notre propre désir, de nous attacher aux existences qui ne sont pas les nôtres, pour leur donner une vie qui restera forcément dépendante de notre subjectivité et de notre trajectoire. Connaître, comprendre, dévoiler ou revendiquer l'opacité. L'interrogation, d'après moi, vaut autant pour l'exploration des matériaux considérés comme orphelins ou aphones, les matériaux d'archives, comme pour ceux donnés par la parole qui circule, et elle vaut aussi pour l'archive et la trace.
Merci beaucoup d'abord, Christine. Pour
et Nora, je te présenterai bien comme il faut cet après-midi.
Oui, on va pas alourdir l'aube de cette journée. Mais en tout cas, je voulais simplement signaler que dans cette réflexion autour de l'archive, il y avait aussi un pan filmique et audiovisuel, puisque le cinéma a bien sûr, depuis toujours, mobilisé l'archive. Via la mise en scène comme via le montage, et a aussi produit constamment de l'archive, devenant donc lui-même, que ce soit donc du cinéma ou de la télévision, de l'archive remobilisée, devenant archive, pouvant être remobilisée dans des films subséquents. Voilà. La question de la mise en scène de l'accès ou du non-accès à l'archive, la mise en scène du dévoilement est quelque chose qui est au cœur du long métrage que l'on va voir ce soir, qui s'intitule Le pays à l'envers et qui a été écrit et réalisé par Sylvaine Dampierre, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour une conversation après la projection. Le film sera diffusé à 20h. C'est un film qui est sorti déjà il y a plus de 10 ans, mais qui est toujours absolument, d'une intensité immense, qui est très singulier dans le paysage cinématographique français, disons francophone, et qui vient répondre et étendre les problématiques à l'œuvre de cette journée. C'est de toute évidence, vous le verrez, une quête de l'archive, et en l'absence d'archives, la quête de traces, et dans le dévoilement de traces, la constitution de nouvelles archives. Sylvaine Dampierre en parlera avec nous ce soir, mais je voudrais dire aussi que dans sa trajectoire de recherche et de dévoilement et de mise en scène filmique, finalement, le pays à l'envers devient en quelque sorte une archive de sa recherche filmique, qui devient d'autant plus, pour moi, ça devient l'archive de sa recherche au moment même où elle sort. Donc c'est une journée intéressante pour l'inviter pour parler de ce film, au moment même où Sylvaine Dampierre sort le long métrage qui suit donc le pays à l'envers, qui est Parole de nègre, qui vient de faire sa première au Festival du film des droits humains en Guadeloupe. Elle vient de le présenter à l'endroit même où elle a filmé, à Marie-Galante, et qui est finalement la continuation de ce travail de dévoilement, où là elle passe vraiment à la mise en scène de l'archive dite et réappropriée, et à travers ce qu'on qualifie hein, en théorie filmique du reenactment. Voilà. Donc il y a là un parcours intéressant sur 11 années. Je m'arrête là, on la retrouvera donc ce soir à 20h. Voilà.
Voilà, écoute, merci Nora. Et puis alors, pardonne-moi vraiment encore mon étourderie. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que, bon, tu vas intervenir tout à l'heure, on va mieux voir quel est ton travail, mais que dans notre groupe, tu as ce rôle de désormais être celle qui fait le lien entre nos discours un peu plombants académiques et les discours. Les autres manières d'écrire, artistiques, filmiques, et auxquelles on consacre nos soirées à la fin de nos journées d'études. Donc voilà. Alors on va accueillir Philippe Artière, donc que je vais présenter, peut-être un peu plus longuement que nos autres invités, parce qu'il y a dans son approche des questions qui sont essentielles pour notre journée. Donc, Philippe Artière est historien, directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Il s'intéresse à la production des archives comme, je dirais, effritement dans leur forme scripturale au cours de processus d'hybridation avec les cultures visuelles. Il est l'auteur, et je dirais à la fois historien et écrivain, de nombreux ouvrages que je ne vais pas citer. Qui sont très nombreux, donc j'en retiendrai un et vous allez savoir pourquoi. Ouvrage d'une originalité évidente, avec des constances qui tiennent à trois caractéristiques qui me semblent traverser les écrits. Il y a d'abord l'irruption de la figure de l'historien et donc de l'auteur, immédiatement traduite par le je qui parle, qui dit ce qu'il est en train de faire, du pourquoi et du comment de sa pratique, empreint de sensibilité, d'émotion. Un surgissement non camouflé de l'intrigue du récit à la première personne, un souci réflexif que l'on a plutôt l'habitude de trouver en anthropologie et qui est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant, dans les écrits d'historiens sur la Caraïbe et les sociétés à fondement esclavagiste. Il y a ensuite le souci de la création, l'inventivité, un par-delà l'archive qui est passionnant et qui invente une nouvelle vie au texte conservé. Et je suis à peu près sûre qu'on doit être nombreux à rêver d'avoir participé à cette sorte de jeu de société à base d'archives que vous avez créé de toutes parts et restitué dans ce dossier de Bertrand, seul ouvrage que je me limite à citer. Et puis il y a enfin cette autre constance, sans doute primordiale, nourrie par la proximité avec les écrits de Foucault, qui est celle de l'intérêt pour ce qu'il a nommé, ce que vous avez nommé, les archives mineures, celles qui disparaissent des chronologies officielles pour former un corpus hétéroclite sur les déclassés, les incarcérés, les criminels, les destins étranges ou souffrants. Et on pourrait donc dire, mais attention, je ne suis pas historienne, je parle sous votre contrôle, que ce sont les en-dessous et les interstices de l'archive qui vous intéressent, Philippe Artière, tous ces documents qui n'ont l'air de rien et qui s'empilent de façon vertigineuse. Bref, votre apport est éclectique, inspirant, et il met en perspective nombre des questions qui sont posées, qu'on voudrait poser au cours de cette journée, et particulièrement celles qui me semblent être au cœur de la pratique de dévoilement et de mise à jour, à savoir la question du qui dévoile l'archive, et surtout pour qui dévoile-t-il l'archive. Donc je vous laisse la parole. Pour peut-être, je me dis, une nouvelle expérience, puisque vous allez nous parler de la plage noire tirée de l'ouvrage poétique de la relation d'Édouard Glissant, et dont je vous remercie d'avoir pu attirer mon attention sur ce chapitre que je n'avais lu que superficiellement, qui est dans la poétique de la relation.
Un grand merci de cette invitation qui me touche énormément. pour plein de raisons, à la fois personnelles et intellectuelles. Et c'est assez, c'est vrai, c'est assez singulier qu'elle se fasse par par ce mode qui est le nôtre maintenant de communication comme ça, quasiment archipélique, hein, puisque on est vraiment chacun dans nos lieux. Et c'est assez, assez troublant et en même temps, peut-être, comme vous le disiez, Christine, stimulant. Alors, j'ai intitulé cette intervention Archive de la plage noire, effectivement en référence au chapitre de Poétique de la relation. Et voilà, que Glissant a publié et rappeler que bah, dans quelques mois, quelques semaines, ça fera 10 ans que Glissant est mort. Alors j'en viens maintenant à mon propos. Je crois qu'il y a, il y a toujours cette même question hein, qui nous hante, à nous qui cherchons à écrire l'histoire des femmes et des hommes anonymes, de ces figures, vous le disiez, Christine, invisibles du passé, qui, en rappelé, ne sont pas... Ne sont-elles pas le lieu et l'outil même de l'effacement et de l'invisibilisation de ces sujets? Voyez par exemple les signalements, cette pratique qui se développe massivement à partir de la fin du XVIIIe siècle. Voyez ces brefs portraits parlés et rédigés en quelques lignes. Qui ont pour fonction de distinguer un individu d'un autre et surtout de désigner un individu absent, un individu qui a fui. On connaît les signalements des esclaves marrons. Ils émanent du pouvoir. Là, délégué à un commissaire, ailleurs à un agent de la maréchaussée. Ils y relèvent les traits d'un visage, les cicatrices d'un corps, la couleur de la chemise qui le couvre. Mais que disent ces archives disciplinaires des histoires singulières de ces individus, de leur vie particulière, de leurs espérances et de leur peur? Que disent-elles de leur manière d'être au monde et plus encore de se constituer en sujet? Rien, ou presque. Pire, le moindre signe est effacé, évacué. Les archives, on l'a dit, sont autoritaires. Elles sont les marques d'actes de gouvernement, de police, devrait-on dire. Les archives peuvent être ainsi considérées comme un ensemble de marques. Et c'est souvent à partir de ces seules marques, celles faites dans un cahier de punition, celles relevées dans un cahier d'écrou ou un registre de conscription, que l'on écrit l'histoire de la plus grande majorité de celles et ceux qui sont passés avant nous. Je m'en tiens évidemment qu'à des exemples que j'ai pratiqués qui relèvent de l'histoire européenne et du 19e siècle. Alors, Édouard Glissant, je me demandais si Édouard Glissant ne disait pas autre chose, ou tout au moins la même chose, dans son roman, roman Sartorius, sous-titré Roman des Batuto. Roman publié en 1999, assez peu connu, assez peu lu, et qui, pour moi, est vraiment au cœur de cette journée. Dans le chapitre intitulé Gorée, et je vais le citer à la page 203, Glissant reproduit, comme rarement dans ses livres, un document d'archives. Et c'est pour en souligner le manque. Il s'agit d'un décret interdisant le mariage des Noirs entre eux, datant du 9 pluvios de l'an 2, c'est-à-dire du 21 janvier 1794. Et le poète introduit le document par ces mots. Je vais le citer un peu longuement. La feuille est toute pétrie entre ses pliures. Il l'ouvre comme un parchemin ou comme si c'était un voile saint. Il me fait voir, il attend ma réaction. Il lit en même temps que moi le texte qu'il connaît par cœur. Il est parti dans les espaces du monde, dans les retournements insensés de ses déserts et de ses champs bourrés d'eau, là où un petit fonctionnaire tremblant rencontre absurdément une foule de déshérités sans espérance qu'il n'avait jamais vue et dont il ne sait rien. Là où les mystères nés de l'emmêlement, c'est moi qui souligne, soudain vous surprennent à la tête et vous exposent à vif sur l'étendue impénétrable, vous divaguez dans vos nuages de roches et au cœur endurci de vos sables. Suit ensuite la transcription du document, numéro 23 du 9 pluvios, au préfet du département des Côtes du Nord, mariage des nègres et négresses défendus. Et puis, à la suite de ce document, un nouveau commentaire dont j'extrais simplement. Suit ensuite donc la transcription du document et glissant de manière très scrupuleuse, parce qu'il était très scrupuleux concernant l'établissement, enfin dans la page du texte. Met en scène d'une certaine manière le document en rejoignant une matérialité de l'archive. Hein. Ce document est suivi d'un commentaire dont je n'extrais que quelques fragments. J'examine à nouveau le document fétiche, dit-il. L'acte suivant, numéro 125, qui commence au bas de la page, fait état de l'envoi d'un tableau de conscrits supplémentaires de la commune. Bon. Pour ce qui est de ces derniers, dit-il, écrit-il, tous enfants perdus dans cette histoire qu'ils font sans la faire. Tous enfants perdus dans cette histoire qu'ils font sans la faire. Alors, ça me fait écho à un autre fragment de ce roman, donc de ce peuple invisible, hein, des Batuto, où Glissant écrit dans la bouche de la grand-mère, page 155, je le cite, et je cite la grand-mère, « Je ne connais pas cette Madame l'Histoire, sa nom, mais je sais que le ciel est tombé sur notre tête, n'est-ce pas vrai ?» Alors, c'est effectivement un terrible paradoxe des archives que celui d'être, pour leur plus importante partie, le recueil des inscriptions des individus par le pouvoir. Inscription qui vaut souvent effacement, comme ici, effacement de la catastrophe, effacement des véritables sujets de l'histoire. Mise en silence de ce que Édouard Glissant appelle le cri du monde et que Michel Foucault nomme le marmonnement du monde. Comment, dans les archives, sous ces marques qui, en même temps qu'elles sont inscrites, ont effacé ces existences, faire apparaître ces sujets, investir cet en-deçà de l'histoire? En tout cas, c'est une des tâches qu'un certain nombre d'historiennes et d'historiens se sont données depuis une vingtaine d'années dans le sillage, vous l'avez rappelé, notamment dans le sillage d'Arlette Farge. Investir donc cet en deçà de l'histoire. C'est une étrange pratique que celle du dépouillement que nous menons à chacune de nos campagnes dans les archives. Et je voudrais revenir sur cette question, qu'est-ce que dépouiller? Et j'insiste sur le terme dépouiller. Ce n'est sans doute pas seulement ouvrir des dossiers, parcourir des missives, déchiffrer des écritures, comprendre le sujet de chaque document, son objet, l'articuler au précédent, en voir le destinataire, en opérer ce qu'on appelle une lecture critique. Dépouiller, en tout cas au sens où peut-être Foucault nous y invite, c'est aussi se déprendre de ce que l'on est venu chercher dans les archives, de ce que l'on pense y trouver, de ce qui s'y cacherait, peut-être aussi de ce qui a été effacé. Prenez ces mains courantes des commissariats de police de Paris des années 1890. Elles contiennent l'ordinaire, bien sûr, de la vie parisienne, les plaintes, mais aussi les objets trouvés. Ici, on pourrait passer rapidement, préférer les suicides, les courts récits qui les accompagnent. Mais dans ces listes d'objets trouvés et rapportés par un voisin au commissariat, au milieu de ces sacs, de ces objets sans valeur, un autre objet surgit. Les papiers sans importance. Qu'est-ce que ces objets sans importance qui restent au seuil de la description? Une lettre, une carte, une image. Dépouiller, c'est justement, du moins c'est l'hypothèse que je fais, considérer ces archives mineures, ces fonds de carton, ces documents qui restent au fond de la boîte. Ils ne sont porteurs, d'aucun secret, mais de cet en deçà de l'histoire. Et parfois, ils portent ce qu'on pourrait appeler, pour paraphraser Jacques-Stéphane Alexis, l'instant d'une subjectivation. Prenez ces lettres non inventoriées des archives d'un professeur de médecine légale de la fin du XIXe siècle. Il y a une coupure de presse jaunie, il y a encore des feuilles de papier si fines qu'en les manipulant, on menace de les déchirer. Elle relate l'histoire de Camille, cet homme s'habillant en femme et donnant rendez-vous à un monsieur dans un hôtel. Camille s'y raconte, Camille, par ses mots, se constitue en sujet. Sans importance aussi, ces papiers laissés au greffe par ces femmes au moment de leur incarcération dans une prison du sud de la France au début des années 2000. Dans la longue liste d'objets, des clés, des briquets, un tube de rouge à lèvres, un paquet de chewing-gum, et puis le dessin d'un enfant ou cette photographie. Là, dans l'inscription routinière par une surveillante de ces objets qu'on laisse avant d'entrer en détention pour des raisons réglementaires, la mention d'un objet de la première importance pour la détenue, un papier qui l'arrime, un dessin qui lui fait entrevoir un lien. Voyez aussi le cahier de surveillance du centre de rétention d'Arinc à Marseille au début des années 80, lu et consulté par erreur, puisqu'il n'est pas normalement consultable lors de la préparation d'une exposition aux AD des Bouches-du-Rhône. À côté des formules convenues, à côté des noms des agents, de minuscules traces des retenues, de leur gesticulation, pourrait-on dire. Se faire au milieu de ces marques, le quêteur donc, de traces mineures. Dans les archives, il y a en effet des traces. Au dépouilleur d'y prêter attention, de les saisir non pas pour les faire entrer dans le récit qu'il contrôle, car l'historienne et l'historien contrôlent son récit, mais l'encourager au contraire à dériver, à écrire autrement, sans doute plus fragilement. Car l'histoire en mode mineur, celle que l'on écrit avec les traces du monde, est moins assurée, elle est parfois moins précise. Et on voit combien ces questions sont au centre de débats historiographiques majeurs aujourd'hui, qui sont d'une très grande violence, puisqu'ils vont aller jusqu'à des évaluations de nos travaux, probablement, si j'ai bien compris, par des parlementaires, pour savoir si, au fond, c'est encore de l'histoire que nous faisons. Une histoire fragile, une histoire inquiète, pour reprendre les mots de Patrick Boucheron, est une histoire qui inquiète. On ne veut pas laisser ce point inconnu. On voudrait pouvoir affirmer et non pas seulement proposer. Je pense au passage à ce conditionnel utilisé par Alain Corbin dans son livre sur Louis-François Pinago. L'histoire, en effet, aime, et vous reconnaîtrez là aussi la teinte du poète, les récits uniques, supporte mal les silences. Nous étions aux archives pour relever des traces dans toutes les marques du pouvoir. Nous étions confortablement, je dirais progressivement confortablement, même si inquiétés par certaines autorités, mais dont nous savons qu'ils appartiennent au passé. Nous étions là tranquillement à relever des traces. Mais voilà que Foucault, puis glissant, ajoute encore à l'exigence de cette attention. Il faut, disent-ils, accepter le silence. Il faut penser la non-présence comme une forme de résistance, une contre-conduite, pourrait-on dire. 1960, préface de l'histoire de la folie à l'âge classique, qui a été supprimée ensuite dans l'édition de 72 chez Tel Gallimard. À propos de Thorin, qui est cité, c'est une des seules figures que Foucault évoque, rencontrée dans les archives de la Bastille, laquais, dit-il, presque analphabète. Je cite Foucault. C'est ce moins qu'il faut interroger en le libérant d'emblée de tout indice de péjoration. Dès sa formulation originaire, le temps historique impose silence à quelque chose que nous ne pouvons plus appréhender par la suite que sous les espèces, du vide, du vain, du rien. L'histoire n'est possible que sur fond d'une absence d'histoire au milieu de ce grand espace de murmures que le silence guère comme sa vocation et sa vérité. Je nommerai désert ce château que tu fus, nuit cette voix, absence ton visage, équivoque de cette obscure région, pure origine, puisque c'est d'elle que va naître, conquérant peu à peu, sur tant de confusion, les formes de sa syntaxe et la consistance de son vocabulaire, le langage de l'histoire. Et résidu dernier, plage stérile des mots, sable parcouru et aussitôt oublié, ne conservant en sa passivité que l'empreinte vide des figures prélevées. Dans Poétique de la relation, Édouard Glissant, j'en formule avec la plage noire, en des termes plus explicites encore, ce droit, vous l'avez largement évoqué, Christine, ce droit à l'opacité. C'est sur la plage du Diamant, au sud de la Martinique, Et, écrit-il, c'est là que je vis pour la première fois passer un jeune homme fantomatique dont la déambulation traçait infatigable une frontière invisible comme le flux nocturne entre l'eau et la terre. On l'appelle de je ne sais quel nom, car il ne répond plus à aucun nom donné. Un matin, il s'est mis en mouvement, a commencé d'arpenter ce rivage. Je poursuis la citation. Je renonce à le décrire, puis plus loin. Ce que je voudrais marquer, c'est la nature de cette mutité. Toutes les langues du monde sont venues mourir ici, dans le refus tranquille et tourmenté de ce qui se passe alentour dans le pays. Poursuis plus loin. J'ai tâché de communiquer avec cette absence, respectant l'inlassable mutité. J'ai néanmoins voulu, par dépit de ne pas être, de ne pas m'être fait comprendre, entre guillemets, ou accepter, inaugurer avec le marcheur un système de relations qui ne fut pas basé sur des mots. Plus loin, je lui fis un jour un appel muet, un geste dont je ne savais vraiment pas comment calculer le mouvement, sans affection ni condescendance, mais sans critique ni hauteur. Il ne répondit pas. Comme j'insistais sans insister, il me rendit un signe imperceptible, du moins à mes yeux, car ce geste était peut-être le comble de ce qu'il pouvait exprimer. Je comprends ce que vous essayez d'entreprendre. Vous essayez de savoir pourquoi je marche dans la non-présence. Se réfugier comme ce marcheur dans l'absence. Alors le poète ici, je crois, et c'est par là que je finirai en quelques mots, se fait le chroniqueur effectivement de la relation, tout en donnant place au silence et à l'opacité comme en rupture avec l'institution des archives pour glaner les traces. Dans ce texte glissant, livrait une sorte de traité pour une autre archivistique, une archivistique en mode mineur. C'est à cette même archivistique que Foucault, je crois, nous invitait, une manière de faire l'histoire, attentive à l'écume originelle, à la première suée de sel, à l'histoire qui attend, et vous aurez reconnu là le texte absolument contemporain de la préface de Foucault, mais là d'un poème de Glissant, du sel noir, Le premier jour, publié en 1960. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire rencontre entre ces deux pensées qui, je crois, nourrissent beaucoup de nos travaux contemporains, souvent silencieusement, mais de manière très intense. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Et je veux juste vous demander votre dernière phrase, le sel noir, vous dites c'est la préface, vous
avez... Non, le sel noir en
recueil de poèmes.
Dans le recueil de la poésie Gallimard. Et c'est à l'intérieur du recueil. Dans le sel noir publié en 60, le premier poème qui s'appelle Le premier jour, et c'est le incipit, la fin de.
Non, parce que je pensais que vous disiez qu'il y avait un lien, le sel noir, un lien explicite avec Foucault. Non.
Non, non, il n'y a pas de lien, sauf un lien biographique, juste se rappeler que, en fait, juste à l'après-guerre, Foucault et Glissant suivent un enseignement de philosophie en Sorbonne. Ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont, selon Daniel Defer, une petite quinzaine. Et Foucault et Glissant sont là, tous les deux, dans cette après-guerre philosophique. Enfin, après-guerre et dans ces lieux-là. Voilà.
D'accord. On y reviendra pour notre débat, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé passionnant. Moi, j'ai souvent... le lien nous est tellement explicitement donné entre Deleuze et Glissant, mais rarement, vraiment très rarement, entre Foucault et Glissant. tant mieux si des choses se font en ce sens. On y reviendra pour notre débat. Maintenant, je voudrais accueillir Ferdinand de Jong. Donc, Ferdinand, je voulais dire à nouveau combien je t'étais reconnaissante de m'avoir permis de réfléchir de manière un peu plus approfondie sur les notions d'archives et traces. Donc, tu es anthropologue à l'University of East Anglia. Tu es d'abord historien et puis tu t'es tourné vers l'anthropologie pour étudier la pratique des masques en Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier. Et tu as abordé ces cérémonies du masque parmi les mandingues tout en essayant de comprendre un faisceau de relations récemment instaurées entre patrimonialisation, marchandisation et rituels liés au secret des cérémonies. Et tes recherches t'ont éloigné des attendus d'une disparition des significations de ces pratiques sous l'impact de la globalisation et ont plutôt montré des renégociations locales. Dans la lignée de ces recherches, tu t'es intéressé plus largement aux problématiques de la mémoire, de l'archive. Dans tes recherches, se rencontrent de nombreuses notions de nostalgie, de contre-archive, d'utopie, de ruine et de régénérescence. Et tu vas aujourd'hui nous parler de la décolonisation de l'archive à partir de la figure soufie de Cheikh Amadou Bamba. Je te donne la parole, Ferdinand.
Merci, merci beaucoup pour cette introduction très gentille. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup inspiré pendant mes recherches en Angleterre où j'ai fait mes recherches aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mes recherches au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, évidemment, sur le patrimoine et la mémoire. C'est des recherches que j'ai conduites depuis fort longtemps, je ne dirais pas combien d'années, mais ça va aboutir quand même à une publication avec Cambridge University Press bientôt. Je voulais partager mon écran. Vous voulez bien excuser mon français boiteux pour la présentation, j'ai écrit tout ce que j'ai à dire, bien que ce n'est pas un français écrit. Donc, j'espère que vous allez me suivre.
Oui, ne t'inquiète pas.
Merci. Le sujet postcolonial du Sud mondial demande la décolonisation des archives. La décolonisation de l'archive, Walter Mignolo, et d'autres auteurs décoloniaux nous disent, dépendra d'une décolonisation épistémologique. Il s'agit d'une réévaluation du statut de l'archive, de la lecture de ces documents et du savoir émanant de l'archive. En considérant que les legs coloniales continuent à nous hanter jusqu'à présent, par quelle procédure faut-il donc décoloniser les archives? Les sujets postcolonial peuvent bien douter le savoir produit par une épistémologie coloniale, mais par quels moyens peuvent-ils aboutir à une lecture décoloniale des documents produits dans l'ère coloniale? Dans ce papier, je vous présente quelques photos coloniales qui ont été publiées et circulées dans le domaine public sénégalais et qui sont devenues des objets d'un scrutin intense de la part de la population sénégalaise. Les photos sont des photographies assumées du marabout Cheikh Amadou Bamba. Dans le débat sénégalais, plein de controverses, la question a été posée de leur authenticité. La question était posée, dans quelle mesure ces photos représentaient bien le marabout, comme certains l'ont réclamé. Ces questions ont engagé beaucoup d'internautes sur une grande diversité de sites, dont j'ai fait une étude et dont j'ai discuté les résultats avec le chercheur sénégalais Mamadou Baldé. Les cas montrent que ces débats peuvent soulever l'authenticité des documents et ils seront présentés comme des exemples de la décolonisation d'un pas. J'espère que vous êtes plus ou moins au courant de l'existence des confréries soufis au Sénégal. Il y en a plusieurs, la majorité étant importée du Maghreb, parmi lesquelles la confrérie très connue de Tijaniya. Mais il existe une confrérie originale du Sénégal qui a été fondée par le cheikh Amadou Bamba pendant la fin du 19e, début 20e siècle. C'était pendant la période de l'expansion coloniale de l'Empire français que Bamba a su attirer une population agrandissante comme ses disciples. Ses disciples étaient souvent des esclaves qui étaient libérés. Sans propriété et sans emploi, ils se sont soumis au marabout soufi. Bamba, ainsi que d'autres marabouts, les ont employés sur les terres acquises de l'État colonial, sur lesquelles ils les ont employés à cultiver l'arachide. Donc, à cause d'une collaboration entre colons, marabouts et leurs disciples, une économie marchande est née dans laquelle on a résolu quelques problèmes de la gestion de la colonie. En se soumettant aux marabouts et en leur offrant leur travail, des disciples ont cru recevoir la baraka, ou la grâce divine, transmise par leur marabout. Bien que le pouvoir colonial, en soupçonnant la résistance du guide religieux Amadou Bamba, l'a envoyé à plusieurs reprises en exil, il a été permis de rentrer au Sénégal où son popularité s'est diffusée. Ainsi, la confrérie mouride fut née. En travaillant avec le pouvoir colonial, la confrérie mouride a donc maintenu des relations cordiales pendant la période coloniale et bien après avec l'État sénégalais. Pendant plus qu'un siècle, la photo de Cheikh Amadou Bamba, que vous voyez ici, a constitué la seule photo du marabout sénégalais, publié dans une monographie sur l'islam en Afrique de l'Ouest par l'ethnologue Paul Marty. La photo a été reproduite dans une immense diversité des médias, comme l'a démontré l'œuvre de Allen et Mary Roberts. Dès le début, les disciples de Bamba, ce qu'on appelle les mourides, ont employé des techniques importées d'ailleurs pour la propagation du foi mouride dans la colonie sénégalaise. Dès le début du XXe siècle, les mourides ont employé la technique de la peinture sous verre pour propager les miracles effectués par leur guide. La technique de ce genre de peinture a été emprunté des Arabes qui l'ont déjà employé pour des buts hagiographiques. C'est dans le contexte de l'Empire français que ce genre de représentation du saint musulman s'est répandu depuis le Maghreb vers le Sénégal. Il faut retenir que dans ces conditions, Les colons ont essayé de freiner la diffusion de ces peintures qui ont été considérées comme un moyen de propagande musulmane. Et donc ici, vous voyez une des scènes associées avec la vie de Cheikh Amadou Bamba, dont il y en a plusieurs, je ne sais pas, je pense une dizaine, qui constituent donc la géographie du marabout. Vous voyez ici une autre peinture sous verre qui indique son origine dans la culture visuelle du Maghreb, qui a été employée par les Mourides au Sénégal. Ici, vous voyez une image de Cheikh Amadou Bamba priant sur les vagues. Il y a une petite histoire qui raconte pourquoi il s'est décidé de se lancer dans la mer pour prier sur les vagues. Donc ces tableaux montrent les miracles effectués par le chef religieux. Et comme vous le voyez ici, ces images montrent que même les miracles attribués au Cheikh peuvent avoir ses origines dans une culture visuelle plutôt arabe. Dès le début de la production d'une iconographie mouride sur Amadou Bamba, le régime colonial n'a pas pu exercer son pouvoir épistémologique et a dû accepter la prolifération des images qui ont délégitimé la présence coloniale. Bref, la production d'une imaginaire mouride a dépassé le système épistémologique contrôlé par les colons. Voilà, vous voyez une image du Cheikh emprisonné à Dakar et la comparaison de la photo et le tableau montre bien qu'il y a une convention dans la représentation du Cheikh qui est due à l'incorporation de la photo dans cette culture visuelle. En contredisant la notion benjaminienne de l'aura dans l'ère de sa reproduction mécanique, l'image, la photo, a été enchantée et sacralisée comme étant l'icône du saint. Son statut comme document ethnographique a été écrasé par un régime de dévotion visuelle. En plus, à cause du fait que la photographie a fait objet d'une exégèse de sa signification occulte, l'image a effectivement été appropriée de l'archive coloniale. Quelle surprise, donc, quand en 2010, le journal national, le quotidien, a présenté une autre photo dont le journal disait qu'elle représente le marabout. Le sens commun d'une seule trace du marabout était bouleversé, la notion d'une archive stable était perturbée. Dans des discussions qui se déroulaient, l'authenticité de la photo était mise en question et dans une écho de la répression coloniale, la diffusion de la photo aurait été interdite par le calife général des Mourides. Voilà, c'est cette photo qu'on a publiée en 2010 avec... Évidemment, le cher au cheval. voilà les pages du quotidien dans lesquelles on a publié la photo. Le journal Le Quotidien a publié la photo au 1er février 2010 sous le titre « Photo originale du Cheikh Amadou Bamba Mbacké, une image prise en 1903 ». Le journal réclamait être le premier à publier l'image dont l'existence était ignorée jusqu'à ce jour. Cette revendication était fausse parce que la photo faisait partie de la production des cartes postales dans la colonie sénégalaise. Le texte de l'article portait sur la signification de la photo en réclamant que c'était la première fois qu'on voyait le visage du marabout. Et là aussi, c'est un peu exagéré. Il faut ajouter que le journal a publié la photo juste quelques jours avant le Magal de Touba, le pèlerinage annuel qui attire une grande partie des Mourides sénégalais. Donc, sa publication à ce moment précis a contribué pas mal aux publicités pour le journal. Quelques minutes après la publication en ligne, les commentateurs ont exprimé leur gratitude envers Le Quotidien pour cette publication. En exprimant leur amour du marabout et leur fierté d'être musulmans. Mais des réponses critiques se sont succédées rapidement, par exemple sur le site Hibanet ou l'alias Ndiaye, critiquer la constellation des personnages dans la photo comme étant incompatible avec leur âge au temps de la prise de la photo en 1903. En suivant celui, d'autres ont vite commencé à douter l'authenticité de la photo. Parmi ces critiques figuraient des questions sur les habits qui ont porté les disciples de Cheikh. Beaucoup ont réclamé que, par respect de Sirine Touba, les disciples n'auraient jamais porté des bonnets, chapeaux, turbans ou sandales. Le processus de la vérification et ensuite d'authentification de la photo donc dépendait d'une dévotion actuelle du marabout qui, disons, était un peu anachronique. Le lendemain, après sa publication, une intervention était publiée par la commission scientifique Majalis, qui portait le titre « Analyse de l'authenticité d'une photo présumée de Cheikh Amadou Bamba » sur le site de Majalis. Majalis, c'est un entrepreneur et intellectuel organique mauri. Se penchant sur la culture matérielle de la photo, l'article concluait que les personnages comme identifiés par le journal n'auraient jamais pu se retrouver en compagnie du Cheikh en 1903. Le verdict de l'intervention était que la photo n'était pas authentique. Le débat sur l'authenticité de la photo n'était pas forcément conclué par cette intervention et aurait continué pendant fort longtemps après. La première fois que j'étais confronté avec ce débat était pendant un séjour de recherche à Saint-Louis où je trouvais un Français en vendant des photocopies de l'image pendant le Magal de Saint-Louis, un événement commémorant la conviction du Cheikh à son exil en 1895 par les autorités coloniales. Cette séance du conseil privé et la conviction du marabout constituent des moments suprêmes dans la vie exemplaire du marabout, surtout parce qu'il aura prié une prière de résistance. Voilà. une photo de la, du magasin de, du français, du citoyen français à Saint-Louis, qui vendait des reproductions des cartes postales, parmi lesquelles la photo du chef. D'après Jules, le commerçant français, la photo que vous voyez ici aurait été prise par la photographe français, par le photographe français Edmond Fortier, qui était basé à Dakar au début du XXe siècle, et qui aurait pris plus de 30 000 clichés dans l'Afrique occidentale française. Jules aurait trouvé une carte postale dans la collection des cartes postales coloniales qu'il aurait hérité de sa mère après son décès en 2000. Jules m'informait qu'il avait reproduit la carte et l'en avait vendu déjà 200. Comme il avait exposé l'image dans la fenêtre de son magasin en antiquité, il avait eu pas mal de conversations sur l'authenticité de la photo, des fois aboutant à des bagarres. Il me résumait les axes principaux de ces conversations qui montrent l'existence de différents registres de vérification de l'image. Premièrement, dès le début du débat, il y avait des questions sur l'année de la publication de la photo. D'après le journal, la photo était publiée en 1903, mais on sait bien que c'est en 1902 que Bamba était revenu de l'exil, justifiant le titre « Afrique occidentale, arrivée d'un grand marabout ». Jules m'informait qu'il existait d'autres versions de la carte postale titrée « Dakar, 1902, arrivée d'un grand marabout ». Donc, il y a eu débat sur l'année de la prise de la photo. Deuxième débat se focalisait sur la personne qui menait le cheval de chair. Après le journal, ce monsieur aurait été Cheikh Ibrafal, le quatrième disciple du Cheikh. Il se distinguait des autres par sa soumission inconditionnelle et par le fait que lui-même est devenu un marabout avec une secte de disciples connue par le nom de Baïfa. Après la tradition orale, Cheikh Ibrafal aurait toujours porté des dreadlocks. Il n'est pas confirmé par la photo dans laquelle il paraît avec des cheveux courts. Ici, il faut retenir que les dreadlocks de Fal ont une signification occulte. À cause de ça, les Baïfal ne croient pas que cette photo représente leur marabout et par extension le guide religieux Amadou Bamba. Mais d'après Jules, il existe une autre tradition qui dit que Ibrafal a réclamé, je cite, « Le jour que Bamba sera libéré, je couperai mes cheveux. » Donc, il y avait débat sur l'identification des personnages dans la photo. Troisième, il y avait un autre débat sur la question de si la scène dans la photo était posée. Certains ont réclamé qu'au début du XXe siècle, la vitesse d'obturation était tellement longue que la photo devait avoir été posée. Mais cette question, que je n'ose pas trancher, était posée d'une autre façon en posant la question technique, en l'opposant au pouvoir occulte du marabout. Ce débat était encore plus intéressant. Après certains, si la photo était prise sans permission du cheikh, le pouvoir occulte du marabout aurait prévenu son apparition dans la négative. Il existe une seule photo du cheikh il a donné son autorisation. C'est ça l'argument principal dans ce débat. C'est la photo que je vous ai déjà montrée. Donc, un voisin sénégalais de Jules, qui lui-même travaillait dans une photo labo, disait sur cette photo, la photo que vous voyez ici, pour cette photo, ils disent que ce n'est pas lui. Il n'y a qu'une seule photo. Tous les restes, ce n'est pas réussi. Donc, la photo ne peut pas représenter le cher parce qu'il n'aurait pas donné sa permission. En conclusion, je vous montre la fenêtre du magasin dans lequel le marchand avait montré la reproduction de photos, mais après multiples bagarres sur cette photo, il a enlevé et l'a remplacé avec des peintures sous verre qui ne donnent pas aussi beaucoup. L'argument selon lequel il n'y a qu'une seule photo du marabout, j'ai trouvé très répandu sur l'Internet. Je suppose que tous ceux qui proposent cet argument dans des débats publics en sont convaincus que le Sénégal aurait donné son autorisation pour que son image paraisse dans une photo. Je pense que c'est un argument qui est basé dans des croyances occultes que les Sénégalais appellent souvent le réel. Après cette logique, la photo du cher dépendait de sa propre permission d'être photographiée. L'archive coloniale aurait donc dépendu de l'agencement du cher qui en a été l'auteur. On voit donc dans la photographie la trace de la permission du marabout ainsi que la possibilité de sa refuse. Il me semble important de souligner que la photo, par son représentation du marabout, est témoin de son agencement vis-à-vis le colon. Je crois que la croyance dans l'unicité de l'image est motivée par la conviction que le Saint aurait donné sa permission qu'une seule fois. Cette même conviction fait partie d'un discours qui semble prévenir la multiplication des photos du marabout et d'en détenir la contrôle, au lieu de permettre la circulation libre des photos qui échappent à l'orthodoxie d'une hagiographie bien établie. Finalement, on pouvait bien se poser la question à qui appartient l'archive de laquelle sont sorties ces images. Est-ce que cette archive est bel et bien une archive coloniale ou est-ce que l'archive a déjà été décolonisée? Il me semble que les photos dont on a parlé sont des photos qui ont été prises dans l'ère coloniale. Mais il faisait partie d'une production hagiographique qui était dès le début partagée et appropriée par les fidèles mourides. C'est pour cette raison que je crois que ces photos ne sont pas uniquement porteurs d'un héritage colonial, mais également d'un héritage anticolonial. C'est pourquoi la décolonisation de l'archive pose problème. Ces documents de la colonisation ont déjà été décolonisés bien avant la lettre, mais ils restent toujours hantés par le spectre colonial. Pour conclure, je voudrais citer l'auteur Achille Mbembe. Sans commentaire. Yet the Western archive is singularly complex. It contains within itself the resources of its own refutation. It is neither monolithic nor the exclusive property of the West. Africa and its diaspora decisively contributed to its making and should legitimately make foundational claims on it. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.
Bien, écoute, merci beaucoup, Ferdinand. Merci à toi. Merci de l'effort que tu as consenti à faire pour t'exprimer en français. C'est très gentil de ta part. Et on reviendra sur cette notion, j'en suis sûre, de décolonisation et sur ta conclusion qui est extrêmement intéressante. Est-ce que l'on doit décoloniser ce qui a déjà été décolonisé? C'est peut-être valable pour l'archive, mais aussi pour les bibliothèques. Enfin, on en reparlera.